Alors nous allons lire dans le prophète Zacharie. Dans le prophète Zacharie, au chapitre 4, excusez-moi d'avoir été long dans les annonces, mais c'était quand même nécessaire. Nous allons faire deux lectures et à la fin, je vous en donnerai deux autres pour votre méditation personnelle. Ce n'est pas mon habitude d'agir ainsi, je n'aurai pas le temps de les commenter, mais je vous prie de les noter tout à l'heure, parce qu'elles vous seront certainement bénéfiques pour votre piété. Zacharie, chapitre 4, verset 1er. On va lire le chapitre en entier. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes. » avait sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras, que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux chandeliers, à la droite du chandelier et à sa gauche ? De l'olivier, pardon, ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche, je pris une seconde fois la parole, et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ? Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Gardez la page, s'il vous plaît, et venez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Verset 10, Apocalypse, chapitre 1er, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds était semblable à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Amen. Et je voudrais quand même lire un troisième texte avec vous, gardez surtout Zacharie. Je voudrais lire avec vous dans le prophète Samuel, dans le 1 Samuel, un verset que j'aurais peut-être même dû utiliser que ce verset ce matin. Je pense qu'il faut dire certaines choses avant pour mieux comprendre. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, le Seigneur est en train de reprendre d'une manière sévère le roi. Il était beaucoup plus intéressé par la royauté que par Dieu. Ça lui a coûté très cher. De toute façon, c'est ce qui se passe. Quand on est intéressé plus par le matériel, plus par les titres, plus par les honneurs que par la volonté de Dieu, ça nous coûtera tous très cher. Et voilà qu'une parole qui est vraiment une des paroles clés de l'Ancien Testament. Regardez 1 Samuel chapitre 15, versets 22 et 23. On pourrait faire un livre sur ces deux versets, je vous assure. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et tenez-vous bien, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans une autre version, je crois avoir lu que la sorcellerie. Je le relis. La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Voilà, mes frères et sœurs, un verset que nous aborderons dans quelques jours, Dieu voulant, pour comprendre l'importance de l'obéissance, de la désobéissance et de la résistance. Lorsque Dieu nous parle et que l'on résiste. Vous avez vu dans Zacharie, il est dit, l'ange me parla. L'ange me parla. Dans l'Apocalypse, on voit ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur a des choses à dire à l'église. Je l'ai déjà dit, il y a des prédications qui sont, entre guillemets, passe-partout. Ça fait du bien, c'est intéressant, c'est certainement très, 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 très correct, mais je crois que Dieu a des choses à dire à l'Église. Des choses à te dire. À toi, mon frère. À toi, ma sœur. À toi qui viens pour la première fois. Vous savez que je n'aime pas tutoyer, pour moi c'est un manque de respect. Mais si je le fais, c'est pour que vous soyez ça bien clair pour tout le monde. Dieu a des choses à te dire. Toi qui es jeune, toi qui es vieux, toi qui es une femme, toi qui es un homme, toi qui es rétrograde ou pas, je ne sais rien. Dieu t'aime suffisamment, il a des choses à dire à l'Église. Ce que l'Esprit dit aux Églises. Jean a été touché, il s'est retourné pour savoir quelle était la voix qui lui parlait. Pas pour voir la personne, pour voir la voix. Vous avez lu avec moi. Il voulait savoir quelle était la voix qui lui parlait. Nous venons de chanter un cantique qui est très très beau. Nous voulons voir, fais revenir ta gloire. Ne nous mettons pas l'idée en tête que la gloire de Dieu va revenir parce qu'on va chanter ce cantique. Ou parce qu'on aimerait que la gloire de Dieu revienne, parce que ça serait super intéressant pour les églises que la gloire de Dieu revienne, ça ne va pas se passer comme ça. Le Seigneur a des choses à dire à l'église, le Seigneur a des choses à te dire, le Seigneur a des choses à te dire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, car demain nous ne savons pas. C'est suffisamment répété dans la Bible ce qui nous attend. Le fait que Dieu nous conduit, nous amène à comprendre ce que je suis en train de vous dire, nous amène à une évidence. Vous avez vu ce qui s'est passé ? L'ange qui me parlait, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait en premier ? Il faut m'aider. Monsieur Oli nous pose des questions le samedi, on répond. Alors, qu'est-ce qu'il a fait en premier ? Il a réveillé. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Car laissez-moi vous dire qu'avant que Dieu puisse vraiment nous parler et qu'on entende avec nos oreilles, il va falloir qu'il nous réveille. Et beaucoup au milieu de nous sont assoupis, endormis, morts. La Bible, Paul le dit aux Éphésiens. Aux Éphésiens, pourtant l'église éphésienne, ce n'était pas une mauvaise église. Et il dit, mais réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Les chrétiens qui sont morts, ils sont comme morts. Ils ont aucune vie spirituelle, ils aiment le Seigneur. Est-ce que quand vous dormez la nuit, vous aimez le Seigneur ? Mais bien sûr, mais vous dormez. Et si on vous parle, vous n'entendez rien, à moins qu'on vienne, mais vous n'entendez pas. Et si nous voulons voir ces choses comme nous soupçonnons que c'est très intéressant, parce que ça finit à cette montagne où Dieu va dire, elle sera aplanie, laissez-moi vous dire que quand Dieu commence à revenir, il nous explique que les montagnes, il va en faire son affaire, qui représente l'accumulation de toutes les difficultés. Est-ce que ça vous intéresse de voir les montagnes aplanies ? Alors commençons par le début. On pourrait prêcher toute la matinée sur grande montagne, tu seras aplani, youpi, ou ce que vous voudrez. Mais croyez-moi, avant que Dieu aplanisse les montagnes, il faut commencer par le début. Il faut être réveillé, entendre ce que Dieu a à nous dire. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle ? Attendez avant de répondre. Parce que ça veut dire que je vais devoir peut-être tout changer dans ma vie. Si Dieu me parle de consécration, ça va certainement changer l'emploi du temps de plusieurs. Si Dieu nous parle de sanctification, ça va certainement changer beaucoup le programme de plusieurs. Si Dieu nous parle de persévérance, ça va certainement changer l'état d'esprit de beaucoup. Et ne nous autorisons pas très rapidement à répondre « Oui, je veux que Dieu me parle. Est-ce que je suis prêt d'abord à faire ce que le Seigneur va me dire ?» Moi, le Seigneur est en train de montrer certaines choses. Je vous en ai parlé un petit peu par rapport à la vie de l'Église. Eh bien, c'est bien. De toute façon, ce que Dieu veut pour nous, c'est toujours bien. Ça nous paraît mal parce qu'on ne le comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un pécheur entend « Repens-toi » et qu'il n'accepte pas, c'est qu'il ne comprend pas le bien qu'il obtiendra en obtenant le pardon des péchés. Vous voyez? Mais quand un chrétien ne comprend pas qu'il faut qu'il se reconsacre, qu'il faut qu'il se sanctifie, c'est parce qu'il c'est un aveugle, c'est quelqu'un qui dort. Vous avez vu cette parole que Jésus répète à toutes les églises de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende. Ces paroles sont adressées à une église qui représente la fin des temps, la Odyssée, une église qui avait le Seigneur dehors. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cette église, la Odyssée, représente l'église de la fin des temps, et Jésus, il est dehors. Ça vous fait quoi? Est-ce que vous vous rendez compte? Le Dieu qui a bâti l'église, qui a posé, on va parler de Zorobabel, qui a posé la première pierre, mais on parle du grand Zorobabel, qui a posé la première pierre à Pentecôte. Il est dehors. Il est dehors dans bien des cœurs, ici. Ne commençons pas à faire des comparaisons. L'église de Sainte-Agne, ça marche assez bien. Il y a des petites églises à côté qui ne marchent pas bien, donc nous, on est au-dessus du lot. Je crois qu'on ressemblerait beaucoup aux chrétiens de la Odyssée en nous comportant de cette manière, en nous comparant. Il est hors de question de nous comparer. Il est urgent que chacun, mon frère, ma sœur, vous qui avez pris le baptême, vous qui avez dit un jour « Jésus sera mon sauveur, Jésus sera mon Seigneur », que nous ayons des oreilles spirituelles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Voulons-nous vraiment que Dieu nous parle? Nous avons besoin que Dieu ouvre notre entendement, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Nous avons besoin de discernement. Certaines ne savaient même pas où vous en êtes spirituellement. Certains d'entre vous, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous pourriez peut-être demander un entretien. Nous sommes là pour vous aider. Il y a des frères, des sœurs dans l'assemblée, vous le savez, qui ont une maturité spirituelle et qui peuvent vous aider à faire le point. Mais vous n'y pensez peut-être pas, alors que la Bible dit de veiller les uns sur les autres. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous êtes prêts à entendre certaines choses? Mes frères et sœurs, l'ange a dû réveiller Zacharie. Zacharie, ce n'était pas bon. C'était quelqu'un, Zacharie. Et pourtant, il a fallu que Dieu le réveille. Parce que Dieu, malgré le fait, voyons le chapitre 4, il avait déjà bien cheminé avec Dieu. Mais Dieu voulait lui montrer quelque chose. Vous avez cheminé avec Dieu, vous avez déjà passé des années avec le Seigneur, mais comme Zacharie, si Dieu voulait vous accorder une vision, est-ce que vous êtes prêt à vous réveiller pour voir cette vision? Parce que ça serait un petit peu tiré par les cheveux que de dire au Seigneur, parle-moi, avec les doigts dans les oreilles. Vous êtes d'accord? Ça serait d'une tristesse pas possible. Quand on dit au Seigneur, parle-moi, je crois qu'au préalable, on dit au Seigneur, mais ouvre mes oreilles. Comme David qui disait, mais ouvre mes oreilles, que mes oreilles soient attentives, comme les oreilles des disciples. Nous avons besoin de discernement, de compréhension. Quelles sont les choses que Dieu veut que je vive tout à nouveau? J'ai parlé de service et c'est archi urgent que certains d'entre vous, vous ne commettiez pas l'erreur d'être comme ces vierges folles qui se sont entendues dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Elles attendaient le retour du maître. Mais elles n'avaient pas de communion avec Dieu, elles n'avaient pas d'huile. Ce texte nous parle beaucoup d'huile, justement. Alors, pourquoi certaines choses sont si rares? Je me réjouis, mais là c'est clair, je me réjouis vraiment de voir, comme je vous l'ai dit dans les annonces, que j'ai vu plus de fruits en 15 jours qu'un an. Mais, quand même, pourquoi ces choses sont-elles si rares? C'est-à-dire que Dieu, par sa parole, se révèle à moi une fois de plus. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens qui disent, parce qu'il y en a ici, qui disent, oh ben moi la Bible, je ne la lis plus, je l'ai déjà lue, je sais, moi si vous me parlez, le sermon sur la montagne, mais moi je le connais par cœur, le sermon sur la montagne. Quand on en est là, on vient d'expliquer quel est le niveau d'immense piété de la personne. Mes frères et sœurs, je crois que Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur avec des textes que nous connaissons très bien. Ce n'est pas parce qu'on les connaît dans la tête qu'ils se sont révélés d'une manière spirituelle dans notre cœur. Alors, certains d'entre vous, vous vous êtes fait piéger. Moi, je ne me mets pas avec, parce que Dieu m'a montré certaines choses, je suis au même niveau que vous, croyez-moi. Mais combien de chrétiens sont accaparés par le travail. Le travail. Mais béni soit Dieu pour le travail. C'est une bénédiction d'avoir un travail, oui ou non? Est-ce que c'est bien d'avoir un travail? Mais quand même, il n'y a pas que le travail. Certains sont accaparés par le ménage. Une dame me disait il y a quelques jours, mais moi je ne fais plus mon culte personnel à cause du ménage. J'ai dit, mais vous allez le regretter. Vous ne croyez pas que ce n'est pas un piège dans lequel on peut tomber à cause du ménage? L'esprit agité, nous sommes dans un monde très très agité et ça ne va pas s'arranger. Les chrétiens sont agités comme ce n'est pas possible. Que les pécheurs soient agités, c'est normal. Que les perdus soient dans la crainte, dans l'angoisse, c'est normal. C'est pour cela que nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Les chrétiens sont parfois étouffés, comme dit Jésus dans la parabole, par les soucis de la vie. Et la parole de Dieu ne produit rien. Vous écoutez, vous pouvez dire, mais c'est clair, ce que le pasteur nous dit ce matin, ça tient debout. Mais dans la rue, vous serez déjà connecté peut-être sur notre radio, vous penserez à autre chose, et les soucis vous auront étouffé. Et après, on va chanter « Que ta gloire revienne ». Dieu veut parler, mes frères et sœurs, ça j'en suis profondément convaincu, mais il parlera à ceux qui se réveilleront. Car c'est à nous, individuellement, de nous réveiller. Ce n'est pas Dieu qui va nous réveiller. Il peut le faire. Est-ce que Dieu a réveillé Cyrus? Enfin bon, c'était quand même un païen. Il n'était pas dans une piété extraordinaire, mais Dieu l'a réveillé. Alors, vous pouvez dire, Seigneur, réveille-moi. Mais c'est comme moi si on me disait, tu me réveilles le matin à 5 heures pour que j'apprenne la couture. Bon, je veux dire, même si le réveil sonne, moi, la couture, ça ne m'intéresse pas. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Peut-être que ça ne vous intéresse pas trop de vous réveiller, parce que apprendre la couture, ça ne doit pas être quand même facile. Mais apprendre à servir Dieu, il y a aussi un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut que Dieu nous réveille. Ce texte, moi je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, mais je peux vous dire que vendredi soir et hier après-midi quand je priais, le Seigneur m'a montré la nécessité d'abord d'être réveillé. Le réveil personnel. C'est bien que vous consacriez votre pasteur. Seigneur, que notre pasteur soit consacré, que notre pasteur soit un homme de Dieu. Seigneur, nous te le consacrons, notre pasteur. Merci. Merci du fond du cœur. Merci. Mais je ne crois pas que ça soit tout à fait comme ça que ça doit marcher. Je pense que la consécration, c'est quelque chose de personnel aussi. Priez pour moi et continuez à le faire. Et faites-le pour que Dieu me travaille comme il faut. Mais de grâce, n'offrez pas à Dieu que la consécration de votre homme de Dieu. Offrez votre sanctification, offrez votre consécration. Vous vous rappelez d'Isaacar, je vous donne la référence, en Chronique 12:32, il avait l'intelligence des temps. C'était un homme qui se tenait, s'il avait la connaissance des temps, intelligence ou connaissance suivant la version, si cet homme avait l'intelligence et la connaissance des temps, c'est qu'il devait, je peux vous dire, se tenir devant Dieu. Et il n'y a qu'un homme réveillé, mais ça c'est la logique. Je veux dire, là on n'est pas dans le méga spirituel. Il n'y a qu'un homme réveillé qui est en mesure d'entendre Dieu lui parler. Vous entendez avec les oreilles physiques, qu'entendez-vous dans vos oreilles spirituelles ce matin? Dieu a dit à Zacharie, que vois-tu? Que vois-tu? Ce matin, que voyez-vous? Voyez-vous les élections? Êtes-vous passionné par les élections en pensant que ça va beaucoup changer notre société? Ou est-ce que vous voyez l'urgence de devenir l'homme, la femme que Dieu veut que vous deveniez? Que vois-tu? Spirituellement, vous êtes capable de répondre. Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu? Que vois-tu quand on voit les églises, le corps de Christ? Nous voyons, moi je vais vous dire ce qu'on voit. On voit une église où le Seigneur Jésus est à la porte. Et croyez-moi, tant qu'il n'entrera pas, il ne se passera pas grand-chose dans les assemblées. Voulons-nous faire en sorte que Jésus rentre? Il va y avoir un prix à payer. Un prix que nous devrions considérer comme un honneur et non pas une corvée. Car si vous interprétez cette parole comme un fardeau, renoncez de suite. Dieu n'aura pas besoin de vous. Je crois que les gens qui veulent se consacrer à Dieu ne peuvent que le faire que joyeusement. Le reste n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Zacharie a vu un chandelier. Vous savez, c'est candélabre à 7 branches. Jean a vu 7 chandeliers dans l'Apocalypse. Il représente toujours l'instrument de témoignage dans la maison de Dieu. Vous allez comprendre. Le chandelier nous parle toujours du témoignage dans la maison de Dieu. Il n'y en avait pas un dans le lieu saint, chandelier, dans le tabernacle. Il y avait un chandelier dans le lieu saint. Comment était-il ce chandelier à 7 branches? Il était tout en or. Et bien sûr, il représente la lumière de Christ dans la présence de Dieu, puisqu'il était dans le lieu saint. Il y était donc tout en or, et il représente Christ qui illumine la maison de Dieu. Il y avait également la table des pains de proposition, Jésus, qui représente le pain de vie. Il y avait l'autel des parfums, qui représente bien sûr la communion, l'encens, l'adoration, etc. Cet encens qui monte représente tout ce qui monte de nos cœurs vers Dieu, la louange, l'adoration. C'est important de rappeler comment Dieu avait voulu que soit fabriqué ce fameux chandelier. Il était d'or pur. L'or pur nous parle de perfectionnement. Voyez que je reste collé à mes études sur la vie de l'esprit. Car les pasteurs ont été donnés pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un un jour me dit, non, les pasteurs, ça doit faire des visites aux grand-mères. J'ai dit, je crois que c'est une bonne chose de faire des visites aux grand-mères et de boire un petit café. Je crois que les pasteurs doivent se tenir devant Dieu pour perfectionner les saints. Et pour faire que les chandeliers dans l'église soient vraiment d'or pur. Là, l'or pur nous parle de perfection. Tout doit être conforme au dessein divin. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ce matin qu'on aimerait ressembler à l'église primitive. Est-ce que vous voulez ressembler à l'église primitive? Eh bien, croyez-moi, il va falloir travailler l'intégrité. L'intégrité personnelle. Car si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, il faut être conforme au dessein divin. Il faut être conforme à Dieu. Vous vous rappelez quand Paul dit aux Romains que la conformité à sa mort, la conformité à sa résurrection, on est là-dedans. C'est le chandelier d'or pur, un instrument du témoignage. Parce que je peux offrir des sacrifices de louange. Dieu a souvent dit par le prophète Amos, je supporte plus vos sacrifices de louange. Parce que ça s'appelle en vérité le sacrifice de l'insensé. C'est-à-dire que je loue Dieu, mais je ne lui obéis pas. Et ça, c'est un piège dans lequel nous pouvons tomber. C'est un piège sévère. Un instrument du témoignage doit être conforme à Dieu. Et je crois vraiment, je crois pour l'avoir réalisé, en tous les cas je parle pour moi, qu'il est difficile de trouver des hommes et des femmes qui seront de plus en plus conformes à ce que Dieu veut. Alors je vous pose la question, très très sérieusement, parce qu'on est sous le regard de Dieu, vous n'êtes pas sous le regard du pasteur, moi je vois le bout de votre nez. Mais Dieu voit votre cœur et le mien. Et je vous pose la question, qui veut être ce chandelier dans la maison du Seigneur, travailler de telle sorte qu'il deviendra de l'or pur? C'est gratuit, mais il y a un prix à payer. Dans l'église de la Odyssée, ça va très très mal. Ils se croient riches parce qu'ils ont été bénis matériellement, que ça ne nous pende pas au nez cette affaire. Que nous puissions comprendre que la richesse avec Dieu, c'est la beauté d'une profonde communion. Dieu dit à cette église, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. La richesse avec Dieu, elle n'est pas dans les bâtiments, dans les comptes en banque, dans le nombre d'adhérents ou de chrétiens qui composent une église. La richesse, elle peut être dans une église de 10 membres où ces 10 membres ont une véritable communion avec le Seigneur. Le chandelier nous parle du témoignage, de la lumière pure qui est rendue par un témoignage. Car quelle est la lumière que nous donnons lorsque nous ne sommes pas dans la pureté? Quelle est la lumière que nous présentons à nos voisins, à nos enfants, à nos conjoints, quand tout brille, mais pas de la lumière de Dieu, croyez-moi. La richesse, c'est ça, c'est de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire qu'il y a un travail tel dans mon culte personnel, ou dans un moment comme celui-ci, dans un moment de prière, je crois que le Saint-Esprit le fait. Il y a une telle piété que mon cœur est vraiment à nu devant Dieu. Et là, devant Dieu, le Seigneur fait remonter ce qui doit remonter. Bien sûr, si un lingot d'or, si vous le laissez 3 secondes sur le feu, il n'y a pas grand-chose qui va remonter. Et il faut du temps. Et qui va avoir le culot de dire une fois de plus, moi j'ai pas le temps. Écoutez, vous pouvez le dire, ne me le dites pas, ne venez pas me le dire. Je ne veux pas que vous veniez me dire ça. Parce que moi j'ai rien à vous dire. Mais n'oubliez pas que quand vous dites je n'ai pas le temps, c'est à Dieu que vous le dites. Et je répète ce que j'ai dit, ce que Dieu vous demande, vous avez le temps de le faire. Ne dites plus au Seigneur, je n'ai pas le temps. C'est comme quelqu'un qui se retourne dans son lit et qui ne veut pas se réveiller. Vous avez une épouse? Eh bien, Dieu vous a béni. Peut-être que Dieu vous a béni en ne vous en donnant pas. Et je suis sérieux. Parce que votre égoïsme aurait détruit votre foyer. Vous avez des enfants, c'est une bénédiction. Peut-être que Dieu vous a béni en ne vous en donnant pas. Vous croyez que Dieu se moque des gens? Mais quoi que ce soit que Dieu vous ait donné, quelles que soient les bénédictions que Dieu ait pu vous donner ou ne pas vous donner, vous avez le temps de faire ce que Dieu vous demande. Et il est ou alors il faut arrêter de chanter des cantiques comme celui-ci. Je pense que vous comprenez ma pensée. Il est impossible de continuer à chanter un cantique. Moi, je suis prêt à ne pas le chanter. Que ta gloire revienne si nous ne sommes pas d'accord, afin que Dieu remette le niveau. Vous avez vu, il est parlé de niveau, là. D'un niveau ou d'un fil à plomb, en parlant de version. Et à quoi reconnaîtra-t-on vraiment une église où le Saint-Esprit est en train de revenir, puisqu'on parlait de faire revenir la gloire? À quoi reconnaîtra-t-on une église où le Saint-Esprit est en train de revenir, où Jésus est en train de rentrer? Eh bien, ça se reconnaîtra vite, parce qu'il y aura de suite les fruits d'une véritable repentance. Voilà à quoi on reconnaîtra une église où Jésus tout à nouveau entrera, où on pourra lui donner l'occasion d'entrer parce que le temple sera purifié. Ça sera vite vu par des repentances. Un frère qui est là me disait hier matin, il m'a donné son témoignage, ça m'a enthousiasmé. Un frère me disait qu'il avait honte de parler de Jésus. Il avait honte, au boulot. Et il me disait, je résume, mais il me disait qu'il a eu honte d'avoir honte. Il a eu honte devant Dieu. Et il a pris cette affaire à cœur. Il a pris cette affaire à cœur dans la prière. Et il a rendu témoignage. Et cette semaine, il y a un monsieur qui travaille avec lui, qui lui a envoyé, je crois, un courrier, qui lui a dit, voilà, merci d'avoir offert une Bible. C'est tout ce dont j'avais besoin pour ma vie. C'est vrai qu'on devrait avoir honte d'avoir honte de Dieu. Mais ça nécessite. Mais là, ce n'est pas une parole, voilà, vous avez honte, ce n'est pas bien. Mais non. Je crois que tout ça, c'est dans le lieu très saint, dans le lieu saint que le Seigneur nous donne sa force. Est-ce que Dieu peut vous donner de la force? Est-ce que le Saint-Esprit est un esprit de force? Et voilà, et nous on est là dans toutes ces ambiguïtés, dans toutes ces objections. Oui, mais moi je suis timide. Arrêtez! On n'est pas dans le domaine humain. Nous devons nous projeter dans le domaine spirituel. Alors la question que je vous pose, parce que je vois que le retourne, la vraie question qu'il faut poser, le Seigneur est-il encore capable de faire une chose nouvelle? Parce que ça, c'est ce que... Voilà, là, on fait un bilan spirituel, comme on le fait lorsqu'on s'éprouve, comme on s'interroge quand on prend la Sainte-Cène pour savoir si ça va. Là, on est en train de réfléchir. Fais-nous voir ta gloire. C'était très bien d'avoir pris ce cantique. Mais voilà, la question qu'il faut quand même se poser, Jésus-Christ, peut-il faire des choses nouvelles? Peut-on connaître un temps de visitation? Est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu? Oui, bien sûr. Et vous avez bien fait de dire Amen. Mais à condition qu'il puisse d'abord travailler à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de méthode à rechercher. Tiens, il faudrait faire revenir un évangéliste, une tête d'affiche, là. Ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est travailler à l'intérieur de chacun. Vous êtes membre de cette église? Vous avez choisi de venir de cette assemblée, vous avez chanté ce cantique tout à l'heure, vous voulez un temps de visitation, moi je le voudrais. Mais il ne viendra que si nous permettons à Dieu de nous travailler à chacun. Zacharie a vu aussi ces deux oliviers. Les deux oliviers, les deux oints. Alors, vous savez que le deux, c'est toujours le nombre du témoignage. Les arbres sont souvent le symbole de l'homme. Et l'olivier, bien sûr, nous parle de l'huile. Et nous avons besoin que notre chandelier soit alimenté. Ces oliviers qui alimentent le vase et qui, après, ce vase alimente le chandelier, nous parlent des réserves inépuisables de Dieu. Les ruisseaux de Dieu sont pleins. Vous entendez ? Les réserves de Dieu sont intactes. Dieu les tient en réserve pour ceux qui le craignent. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Les deux oints se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce matin, le Seigneur de toute la terre, il vous regarde. Il me regarde. Il sait comment. Je suis conscient que l'Église a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous entendez, mes frères et sœurs ? C'est sérieux. Dieu nous a sauvés. Je l'ai déjà dit, si Dieu ne nous avait pas sauvés, on serait déjà tous en enfer. Déjà, avant notre conversion, il y en a pas mal qui seraient passés par la trappe, parce que si les anges ne nous avaient pas gardés. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors, combien nous pouvons être reconnaissants d'être vivants aujourd'hui et de pouvoir être utiles ? Et le chandelier représente justement ce que par le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir les réserves de Dieu. Et il a dit, c'est par mon esprit. Les instruments de Dieu sont des hommes et des femmes. Les instruments de Dieu, ce ne sont pas la puissance humaine. D'ailleurs, il lui a dit, écoute, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit. La puissance humaine, si elle y est, s'il n'y a pas la faveur de Dieu, elle sert à rien. Le pouvoir de l'intelligence, l'art oratoire, ça sert à rien. L'organisation, ça servira à rien. Les émotions, l'ambiance, la musique, ça servira à rien. Le nombre de chrétiens ne serviront à rien. La réputation, l'argent, ça servira à rien. Les comités, les personnalités, ça sert à rien si nous ne sommes pas les hommes et les femmes que Dieu veut. Bien sûr que le Seigneur peut utiliser ces choses. Est-ce que Dieu peut utiliser l'argent ? Mais il faut que toutes ces choses que je viens de citer, toutes ces choses, soient secondaires et non pas prioritaires. Il le faut, il faut ces choses, il en faut de l'organisation, il en faut des chrétiens en nombre, etc., etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que ces choses-là, elles sont secondaires. La chose que Dieu cherche en premier, c'est des hommes. La méthode de Dieu, ce n'est pas l'argent. La méthode de Dieu, c'est les hommes qui, eux, utiliseront l'argent que Dieu bénira. Mais ne commençons pas à dire, il faudrait si, on n'entend que ça. Moi, ça me fatigue. Pas ici. Merci Seigneur. Mais je sais très bien que Dieu peut faire reposer une mesure de grâce sur ces choses si elles sont secondaires et si, au préalable, les hommes et les femmes sont remplis du Saint-Esprit. Et il faut faire un choix. Dieu vous le demande ce matin, quel est le choix que vous allez faire ? D'ailleurs, il le dit dans l'Apocalypse, dans ce contexte, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Ce n'est pas moi. Ne vous imaginez pas que moi j'ai des idées. Imaginez-vous surtout que Dieu est en train de me reprendre. Voilà, si vous devez penser quelque chose de moi ce matin, je peux vous le dire, ça va faire 14 ans que vous me supportez. Mais laissez-moi vous dire que si vous devez savoir quelque chose de moi, c'est que Dieu est en train de me reprendre sévèrement pour que je puisse parler, dire à l'Église ce qu'elle doit entendre. Voilà ce que vous devez savoir de moi. Et si Dieu pose la question à l'église de Laodicée qui représente la fin des temps, puisses-tu être froid ou bouillant ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Parce que quand même, la moindre des choses, si Dieu vous pose une question, il vous faut y répondre. Vous êtes d'accord ? C'est le moindre des respects. Veux-tu être froid ou bouillant ? Car la réponse à cette question va déterminer beaucoup de choses. Oui, je vais me reconsacrer à Dieu. Et vous allez voir comme c'est bizarre, comme tout d'un coup on a du temps pour faire ce que Dieu nous demande. C'est bizarre. Je viens de le vivre. Vous savez, j'ai honte. Vous savez, souvent on me fait des éloges. Monsieur Gauzy, monsieur. Mais vous savez, quand Dieu me parle, c'est pas tout à fait pareil. Et j'ai quand même honte. Ouais. J'ai quand même honte de ne pas être l'homme de Dieu que Dieu veut. Je ne voudrais pas que vous interprétiez cette exhortation comme une leçon. J'ai aucune leçon à vous donner. Et Dieu bénit pas les donneurs de leçons. Dieu bénit les hommes de Dieu qui apportent à l'Église la pensée du Seigneur. Et quand Dieu pose une question, moi je vois, Dieu me l'a posée. Moi j'étais consacré à Dieu pour 90%. Oui, je le pense, en toute humilité. Mais il y avait un peu que je gardais pour moi. Pas pour faire des choses mauvaises. Je ne pêche pas. Je ne suis pas un pêcheur de choses grossières. Mais combien de fois j'ai peut-être regardé un film qui était sain, mais quand même dedans une vulgarité, le nom du Seigneur qui est pris en vain, et la conscience qui m'interpellait. Mais enfin, bon, c'est pas grave. J'ai droit à me détendre. Voilà, voilà le serviteur de Dieu que vous aviez. Et je crois que, mes frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu, parce que Dieu veut la montrer, sa gloire, Dieu peut faire de grandes choses, Dieu peut aplanir les montagnes. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de dire. Mais qui es-tu, grande montagne? Mais tu te rends pas compte, je vous parle en français quoi? Mais c'est ça que ça veut dire. Mais tu te rends pas compte que toutes les difficultés qui sont devant toi, si tu es rempli du Saint-Esprit, elles seront toutes aplanies. C'est ça que ça veut dire. Car Jésus qui revient dans une église parce que les chandeliers sont conformes et en or, ça veut dire que Jésus va revenir dans l'église et que nous verrons des repentants, des conversions, des guérisons, des délivrances. Est-ce que c'est ça que nous voulons? En tous les cas, c'est ce que Dieu veut. Mais nous devrions avoir honte de l'avoir mis dehors par une consécration qui n'était pas totale. Dans le lieu saint, tout était en or, dans le lieu très saint. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Quelles que soient les difficultés qu'une église peut rencontrer, quelle que soit la montagne qui se trouve devant vous, si vous vous réveillez, si nous nous réveillons, si nous choisissons de nous laisser alimenter par l'huile du Saint-Esprit qui est inépuisable, si nous décidons de dire Jésus, oui, 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 je réponds, je ne veux pas être froid, je veux être bouillant. Voilà, Seigneur, il va y avoir du boulot, il va falloir que je me tienne devant ta face, il va falloir du temps de qualité, il va falloir, eh bien peut-être oui, la télé, mais peut-être qu'il va falloir que je supprime ci, peut-être que je supprime ça, peut-être que je supprime, madame, une heure de ménage, oui, tant pis si un peu de poussière, il vaut mieux que la poussière, elle soit, croyez-moi, sur le meuble, que sur votre cœur. Oui, Dieu vous dit ce matin, choisis, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être consacré à Jésus-Christ ou est-ce que tu veux être moitié consacré à Jésus-Christ? Vous savez, quand Dieu est d'accord, il confirme sa parole. Il confirmera sa parole si chacun d'entre nous, nous nous occupons de ce que Dieu nous demande. À chacun, moi je vais faire ce que le Seigneur va me demander. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse ce que Dieu me demande? Ou est-ce que je dois faire ce que certains me demandent? Et voilà, c'est ça. Dieu se chargera des montagnes. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le Nouveau Testament? Ça veut dire que le grand Seigneur Jésus a posé les fondations à la Pentecôte. Et si nous nous réveillons, si nos yeux s'ouvrent, si nous voyons ces choses, si nous les saisissons, si nous nous laissons emporter dans cette vie de l'Esprit, Jésus pourra terminer son œuvre. Ses mains achèveront son œuvre. Qui veut voir? Parce qu'il faut que ce soit les mains de Dieu là-dedans, il ne faut pas que ce soit les mains de l'homme, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est les mains de Dieu qui doivent faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de l'Éternel, elle prospère entre ses mains. Mais bien sûr qu'il utilise